Je suis à la cafétéria de la télévision suisse romande avec Georges Gachot. Bonjour, buongiorno.
Buongiorno, bonjour.
Pour parler du dernier documentaire consacré à une sommité de la bossa nova, du tropicalisme, de tout ce mouvement qui a fait une sorte d'effervescence à l'époque. Joao Gilberto, un film « Where are you, Joao Gilberto ?» Donc on sait que vous partez à sa recherche, avec comme fil conducteur, un peu comme guide touristique, l'ouvrage de Marc Fischer, qui était consacré à Joao Gilberto, qui était presque une quête obsessionnelle. Ce qui était troublant, c'est qu'une semaine avant la sortie de son ouvrage, il s'est suicidé. Donc vous avez tout le long de votre documentaire, en filigrane, à la fois ses références, aussi un questionnement par rapport à son acte final. C'est comme ça qu'est née l'envie de faire ce documentaire ?
Parce qu'on avait quand même beaucoup de points communs, Fischer et moi. Lui, c'est l'écrivain, moi, j'étais cinéaste. Sauf que moi, j'allais plus régulièrement au Brésil. J'avais vraiment le contact direct avec les musiciens de par les films que j'avais déjà fait sur Maria Bethânia, Nana Caymmi et la samba avec Martinho Davila. Donc, tous les gens que lui avait rencontrés dans sa quête, qui était plus courte, c'était sur 2-3 mois, en 2010, moi, je les connaissais déjà. Donc, et en découvrant ce livre qui m'a beaucoup touché aussi de la façon dont il écrit sa littérature, ses phrases courtes et très descriptives, il a vraiment j'ai tout de suite découvert quelqu'un qui était différent de moi, mais une prolongation de mon être même et de
avec des résonances.
Avec des grandes résonances, c'était vraiment, c'était troublant. C'était troublant le dédoublement de lui avec moi-même et tout le long de la production de ce film qui a duré quand même 4 années. Je me suis un peu identifié à lui. Je suis rentré dans sa peau. Hein, je lui prête ma voix. J'ai réécrit certains textes pour qu'ils collent bien dans le scénario. Et puis tout d'un coup, j'étais surpris moi-même d'adopter son style. Donc j'ai eu des moments vraiment un peu de
mysticisme.
Oui, et donc c'est un film qui est devenu très très personnel et je pense qu'on le ressent comme ça, c'est que on souffre avec Fischer ce qui lui est arrivé, mais avec moi-même qui sur les pas de Fischer tente de rencontrer Joao Gilberto.
D'ailleurs, par moment, Georges Gachot, vous mettez un peu en scène où Marc Fischer s'est pris en photo et puis on a l'impression que vous entrez presque en communication à travers l'au-delà, à travers son âme, à travers ce qu'il nous a légué.
Oui, mais les Brésiliens font souvent, ils parlent souvent des morts comme des gens qui sont présents, Miúcha, la femme de Joao Gilberto, la seconde femme de Joao Gilberto, disait souvent quand un plan allait bien ou une journée qui s'était bien passée où on voulait des nuages, il y avait les nuages. Quand on voulait du soleil, il y avait du soleil. Alors, il disait tout le temps, Marc, il est là-haut, il est en train de nous aider.
Les frontières sont ténues.
Oui, oui. Et puis, quand un couple de personnes âgées décède, le premier qui part appelle l'autre et le deuxième meurt très, très. En fait, et c'est souvent comme ça, effectivement, que ils ont de relations avec et moi, c'est certain que Fischer m'a hanté tout au long de cette production et de ce travail, et on le sent, ça respire dans le montage. Et puis je voulais faire des choses aussi que lui n'a pas réussi à faire, mais en cadeau à lui, pas en voulant lui montrer, tu vois, moi j'y suis arrivé, toi pas, mais en faisant en mettant en scène des situations que lui aurait bien aimé vivre et qu'il peut vivre, ou le public peut partager ça avec lui. Et puis voilà, donc et son rêve que Joao Gilberto joue au Balala pour lui, d'une certaine façon, a été résolu dans ce film.
Le titre, d'ailleurs, de son ouvrage, au Balala, qui reprend le titre d'une chanson, que vous avez repris aussi après régulièrement dans votre documentaire.
Oui, au Balala, c'est Joao Gilberto a composé peu de chansons. Hein, il est un interprète, un inventeur, parce qu'il a inventé une nouvelle façon de chanter et de jouer la guitare en 1950.
Un rythme particulier.
Oui. Un rythme, mais qui est jamais la bossa nova, c'est quelque chose de très libre, c'est-à-dire que à la fois les paroles, le rythme et l'harmonie, tout ça, ça nage jamais vraiment ensemble et c'est jamais, on se répète pas. Donc il y a une liberté par rapport à l'art et c'est ce qu'a inventé Joao Gilberto. Et donc, c'est pas un compositeur, c'est un interprète, mais il a influencé après par cette façon, cette nouvelle façon de jouer. La musique brésilienne jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est la référence la musique brésilienne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans João Gilberto.
Alors justement, João Gilberto, ben, c'est un mystère parce qu'il a fui un peu les scènes internationales. On pense au Montreux Jazz Festival, on a souvent vu Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gaetano Veloso, qui ont joué d'ailleurs avec lui, et des représentants de la bossa nova, du tropicalisme. Mais lui, c'est un mystère, et c'est aussi ce qui anime votre documentaire.
Oui.
Est-il visible? Est-il devenu mythique à force d'être invisible?
Oui, ou est-il vivant? Souvent, je me suis posé la question, parce qu'on me racontait, je vais lui téléphoner, on va le voir demain, ah, ça n'a pas marché, on sera plus tard. Et donc, tout au long, ils m'ont un peu mené par le nez.
C'est un stimulus aussi.
C'est un grand stimulus, parce qu'ils étaient à la fois touchés parce qu'ils avaient rencontré ce pauvre Fischer, donc ils étaient touchés parce qu'il était arrivé à Fischer, et il ne devait pas m'arriver la même chose à moi, donc ils voulaient m'aider. Et puis, ça aurait été... évidemment, pour eux, un honneur de faire ces rencontres. Mais c'est vrai que... Mais il a joué au Festival de
86.
Jazz de Montréal. Oui, mais même en 2004. Oui, non, il a joué plusieurs fois. Mais je pense que João Gilberto a été la victime de son succès. C'est-à-dire, en fait, il a inventé une façon de jouer. Évidemment qu'il voulait avoir une certaine reconnaissance mais il était habité d'une chose, d'une façon de jouer, hein. Il utilisait sa guitare comme personne d'autre.
Autodidacte.
Oui, il utilisait le cinquième doigt, ce que très peu de guitaristes utilisent. Enfin, et donc il avait une façon très particulière. Et puis c'était un grand guitariste, évidemment. Mais tout d'un coup, quand sa façon de jouer a explosé, que Stan Getz a commencé à la jouer après
Frank Sinatra
et
la future là.
Et je crois qu'il a eu, ça lui a fait peut-être un peu peur, et alors il s'est refermé.
Par contre, on découvre qu'il est de toute façon mystérieux, inaccessible avec tout le monde, même avec un cuisinier qui lui prépare d'une certaine façon son steak et qui ne l'a jamais vu en fait.
On a rencontré quand même des choses extraordinaires. Oui, ce cuisinier qui pendant 10 ans, tous les soirs, il se téléphonait avec João Gilberto. Et pendant 2 heures, et en fait, quelqu'un lui a amené après ce qu'il avait préparé, mais même cette personne ne le rencontrait pas. Il devait poser le plateau devant la porte et puis lui passer l'argent dans l'autre bailleur, comment on avait ça, la porte.
Oui, en brasure de la porte.
Oui.
Mais en même temps, alors c'est cette façon un peu rocambolesque, excentrique de se comporter qui entretient à la fois sa notoriété et le secret.
Oui. Oui, mais peut-être, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, j'en suis certain, c'est ce que j'ai compris, peut-être il s'amuse de ça. Tous ces gens qui voudraient bien le rencontrer, il est chez lui, il chante au balala. Donc c'est une belle image, j'espère en tout cas qu'il est heureux, comme ça, dans son appartement, tout seul. Bon, il n'est pas complètement tout seul, mais effectivement, donner des interviews, c'est pas non plus ce qu'il y a peut-être de plus... Un artiste, il doit jouer, il doit enregistrer, il ne doit pas tellement parler de son art. Mais j'ai connu beaucoup d'artistes qui ne parlent pas. Nelson Frère, ce pianiste brésilien, il ne parle pas. Martha Argerich, pendant des années, elle n'a pas parlé. Maintenant, elle parle un peu plus, mais c'est bien. En fait, ce film, il est hors champ. Tout ce qui se passe, c'est un peu hors champ. Et ça donne la force des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on entend et qu'on aimerait voir, qu'on aimerait qu'ils rentrent dans le plan. Mais c'est plus fort quand ils ne sont pas dans le plan.
Par contre, Georges Gachot, quand même, on rencontre à un moment donné, vous prenez le car, comme on fait beaucoup en Amérique du Sud, et vous rendez dans une province reculée. Et là, on découvre à la fois des musiciens qui ont plein d'anecdotes à nous raconter. C'est vraiment très émouvant. Puis on va aussi aller dans la fameuse salle de bain où il testait la résonance de sa guitare et de ses compositions.
Oui, ça c'était... Et ça, pour moi, c'était vraiment des moments forts, parce que je suis à ce moment-là, je suis acteur, je rentre dans cette salle de bain, la caméra me filme, je sais qu'il y a 50 ans, João Gilberto y était, Marc Fischer 4 années auparavant.
C'est un pèlerinage.
C'est un vrai pèlerinage. Et on est là tout d'un coup dans un lieu, on est là tous les trois. Et puis on entend, après, il y a la magie du cinéma, on fait écouter de la musique, on met des textes de Fischer. Donc après là c'est une construction très fine. Et la magie, oui, c'est là que le cinéma devient vraiment magique, c'est vraiment super. Mais là, c'était pour moi, j'étais touché physiquement, ce qui n'a jamais été le cas.
Habité par...
Physiquement, parce que je suis dans l'image aussi, oui. Mais
Et cette rencontre avec les musiciens, justement, par moments, vous avez certains musiciens qui se mettent tout d'un coup à pianoter, qui laissent porter leur imagination, tout en racontant les anecdotes.
Oui, bah ça c'est une confiance, parce que comme ils connaissent les films que j'ai fait auparavant, donc ils ont un grand respect, et donc ils m'ont ouvert leurs portes, et puis j'ai pu passer des heures ou des journées, et même quand je les appelais, est-ce qu'on pourrait revenir parce qu'il manque encore une petite chose, ouais, viens. Donc en fait, j'avais vraiment un accès privilégié, vraiment vrai, grand, et c'est touchant parce que c'est des amis, donc c'est... Cette générosité qu'ils ont eue envers moi, le public le reçoit, le sent.
Il y a une authenticité.
Il y a une authenticité, vraiment. Mais c'est un peu ma marque. Je pense que dans tous mes films, je reste authentique. Je reste vraiment... Je ne refais pas les plans. Je ne fais pas dire à des gens des choses que j'aimerais bien qu'ils me disent. La force d'une image, c'est une image qui ne peut jamais se répéter. Parce qu'elle est donnée à toi. Le cinéaste, c'est à toi. Maintenant, je te le donne. Et demain, s'il y en a un autre, je ne pourrais pas dire la même chose ou pas de la même façon. Donc, et le public l'aura. Le cadeau, disons, que donnent ces musiciens, ou si ça arrive, ces moments un peu magiques et authentique, eh bien le public le reçoit de la même façon.
Et vous êtes aidé dans votre quête par une journaliste carioca, si je me trompe pas, qui, puis là vous jouez un petit peu à Watson et Sherlock, et ça c'était pour vous piquer au jeu de la recherche, vu les difficultés qu'on pouvait peut-être rencontrer sur ce parcours.
Non, pour moi c'était important parce qu'elle avait été l'assistante de Mark Fisher. Donc
vous me rappelez son nom?
Watson, enfin, elle s'appelle Raquel, et Fisher dans son bouquin la nomme Watson, et lui s'appelle Sherlock. Donc dans ce livre qui est écrit comme un thriller, Sherlock et Watson, moi j'ai pour moi c'était évident que Watson devait devenir ma Watson, et que ensemble on devait continuer la quête que Fisher n'avait pas pu.
Une enquête judiciaire quasiment.
Oui, et ça, le public est tenu vraiment jusqu'au dernier moment. On va le rencontrer, et ça m'a beaucoup amusé parce que c'est le côté drôle du film. C'est le côté, moi j'aimais bien de construire cette énigme, cette recherche qui et le public, je pense qu'il est bien tenu. Ouais. Et puis il y a des moments un peu drôles aussi. La rencontre du manager qui me raconte plein d'histoires, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Mais moi, c'est drôle parce que Fisher, qui avait rencontré aussi ce manager, n'avait pas fait confiance à lui. Alors que moi, dès le début, je lui ai fait confiance. Même s'il pouvait me raconter des histoires, à un moment donné, la finalité, elle est là. Puis effectivement, elle est arrivée.
Et puis, par contre, vous avez choisi évidemment des morceaux très connus du grand public pour les auditeurs, chez Gardi Sarge, ou alors, bien sûr, Ascarotage di Panema, qui ont été après reprises dans plusieurs langues, dont l'anglais, avec Stan Getz, et puis Desafinado. Donc, c'est des morceaux qui sont maintenant dans l'inconscient collectif. À peine on entend quelques notes, on sait que c'est Jean Gilberto. Ça, vous avez choisi aussi de nourrir un peu le documentaire avec ces chansons.
Oui, le film, il a presque 40 minutes de musique et des musiques d'enregistrement historique, en fait, de Jean Gilberto, l'album blanc qu'il a enregistré à New York. Mais déjà, dès le début, dans la structure du film, je savais où les musiques allaient, parce qu'elles ont une fonction pas...
Par rapport à l'image ?
Non, par rapport au récit. C'est-à-dire, par exemple, chez Gadi Sardaj, devait arriver ce qui est vraiment la musique, le bébé de la bossa nova, devait arriver à un moment très précis où Mark Fisher commençait à avoir peur parce qu'on lui a dit, fais attention, Jean Gilberto peut avoir la malédiction sur certaines personnes et tu peux devenir la victime de cette malédiction. Et la musique de chez Gadi Sardaj devait arriver à ce moment-là précis. Donc, et la musique, tout d'un coup, prend une fonction narrative qui est... Ce qui fait que ça décuple vraiment la valeur artistique de la chanson. Et là, j'étais très, très content. Parce que c'est souvent dans les films musicaux, on dit il a chanté là-bas et on le voit chanter là-bas. C'est pas la même chose. Alors que là, ça rentre dans le récit et dans cette histoire du Fisher qui est mort, etc. Et moi qui cherche. Donc, donc on entendra dans le film cette chanson historique de Jean Gilberto.
Emblématique aussi.
Ah oui,
de
tout
l'artiste.
Le monde va les reconnaître tout de suite. Oui, des Afinados, effectivement. Girl of Ipanema, oui, un petit peu.
Et par contre, une personne très importante dans cette quête, que l'on voit ponctuellement, mais qui a beaucoup de choses à raconter, c'est sa seconde femme, Miusha.
Oui, Miusha, je l'avais rencontrée lorsqu'on faisait le film sur Maria Bethania, parce qu'elle faisait un duo avec Bethania sur scène. Et on avait sympathisé, donc c'était 2003, il y a 15 ans que je... Et puis Miusha, à chaque fois que j'allais au Brésil, que je faisais les autres films, je lui donnais des cadeaux qu'elle devait transporter, qu'elle devait amener à João Gilberto. Mais elle me disait, oui, je lui ai donné, non. En fait, j'ai jamais su s'il les avait vraiment reçus. Et c'est ça, le mystère, c'est, ils vivent de ça aussi. Et puis ils le protègent. Je pense que Miusha protège João Gilberto. Et c'est normal. Heureusement qu'il y a des gens qui le protègent. Et donc Miusha, elle est... Et j'aimais bien sa façon. Et puis j'ai réussi à faire un duo avec João Donato, qui est, à mon avis, magnifique, où ils interprètent une chanson de João Donato, s'appelle Até Quem Sabe. Et après, Miusha est tombée malade, en fait, elle ne pouvait plus chanter. Donc on a eu la chance de faire ce plan magnifique où Donato est sur un Fender, un piano électrique. Oui, et puis ça... Parce qu'ils connaissaient les deux, Mark Fisher, puis Miusha regarde dans la caméra, on a l'impression qu'elle s'adresse à moi, mais elle s'adresse aussi à Fisher, elle s'adresse à... Mmh.
Toujours les résonances.
Plein de résonances, le point de vue. Mmh. Le film, il est bâti sur le point de vue. Mmh. C'est-à-dire qu'on l'a monté comme ça, on sait toujours qui regarde. Mmh. Si c'est Fisher, si c'est moi, ou si c'est João Gilberto lui-même.
Alors là, vous avez à la fois réalisé, mais aussi produit. Donc, est-ce que c'était pour avoir une plus grande marge de liberté d'être seul au gouvernail ?
En fait, c'est tous des films d'auteur que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et j'ai réussi à monter assez d'argent du côté suisse, dont la télévision suisse romande, la RTS, et aussi la télévision suisse allemande, l'Office fédéral de la culture. J'ai levé... 2/3 du budget ici en Suisse, mais après j'en ai trouvé en Allemagne puisque l'autre Fischer est en allemand.
Donc c'était d'Hambourg, mais
il était de Hambourg.
Il est mort à Berlin. Il était aussi journaliste d'ailleurs, pas qu'écrivain.
Oui, il était très connu. Il pouvait écrire où il voulait. En fait, il avait un style. On connaissait le style de Mark Fisher. C'était très connu. Et après j'ai trouvé avec un partenaire français avec qui je fais des films depuis des années, Idéal Audience. On avait fait Martha Argerich ensemble, Marie Bethania aussi, et d'autres. Chacun a apporté de l'argent. Et le montage s'est fait à Paris, avec une monteuse que je ne connaissais pas, qui avait fait la FEMIS, cette fameuse école de cinéma à Paris. Et donc le montage s'est fait à Paris, la production c'est moi qui m'en occupais, la production, c'est-à-dire tout le tournage, etc. Un film c'est par étapes, on tourne, on monte, on retourne un peu peut-être, donc, et puis après il y a la post-production, mixage son, après le grading, les couleurs, etc. Et tout ça, le mixage son et le grading, on a fait ça à Munich, chez Harry, c'est avec des gens magnifiques, un monteur son magnifique. Oui, je crois qu'on a une très belle bande sonore au cinéma. C'est vraiment, on apprécie la qualité de la musique.
Oui, qui emporte le public. À propos de musique, vous avez présenté hier votre film au Bio, à Carouge, en présence de musiciens.
Oui, ça j'ai fait beaucoup. Toute la sortie suisse alémanique, j'ai fait plein d'avant-premières avec, en ouverture, un musicien, une lucienne bossa nova qui chante des chansons, des affinados, chez Gadisabdaj. Et puis ça marche bien parce que les gens, c'est live comme ça, puis après on rentre bien dans le film. Et c'est hier à Bio, c'était vraiment très sympathique, à tel point que le projectionniste a dit, mais on devrait faire ça beaucoup plus souvent, elle sonne bien notre salle. Oui, c'est vrai, c'est une très belle salle, une bonne acoustique au Bio. Ouais. Et demain, ce soir, je vais à Fribourg, on a aussi des musiciens, demain, on est au Pâté à Lausanne, aux galeries, Pâté les galeries à Lausanne, il y a aussi un musicien, vendredi à Vevey, et dimanche à Delémont. Et au milieu de ça, jeudi, je dois aller à Barcelone parce qu'on est dans un festival. Donc je descends à Barcelone. Après, je reviens à Vevey. Et samedi, dans un festival en Allemagne parce qu'on est en compétition là. Donc c'est une semaine bien remplie.
Vous pouvez préciser les festivals ?
Alors, à Barcelone, ça s'appelle Inédite. C'est des films musicaux, essentiellement musicaux. Et en Allemagne, c'est Biberach. C'est dans le sud de l'Allemagne, au nord du Bodensee.
Et puis vous étiez dans la section Panorama au Festival de Locarno avec ce film.
Oui, ça c'était super. On fait vie avec Serraina Rohrer, runner du Festival de Soleure, qui a présenté le film, a fait le Q&A. Et puis il y a beaucoup de gens, c'est une énorme salle, 1200 places. Donc là, ça respire, un énorme écran, un très beau son. Oui, c'est des grands moments. On avait ouvert à Nyon, la première mondiale était à Nyon. Après, on a été à d'autres festivals au Brésil, il est sorti déjà au cinéma. C'est un film qui fait vraiment un chemin intéressant. C'est pas Madonna ni Michael Jackson, mais on touche le public et la bossa nova. Je suis étonné que beaucoup de gens connaissent encore. Mais c'est vrai, quand on entend Girl of Ipanema chantée par Jean Gilberto, on se dit, ah bah oui, bien sûr, je connais.
Et au Brésil, comment le public a-t-il réagi?
Ils ont trouvé le film très, très, beaucoup plus drôle que je pensais, en fait. Parce qu'ils souffraient avec moi de la façon dont j'ai été manipulé un petit peu dans cette quête, où les gens me racontaient des histoires, ils trouvaient ça très drôle. Oui, il est sorti, on a fait pas mal d'entrées, il est resté 8 semaines à l'écran, on a fait beaucoup de premières pages de journaux. C'était très touchant, le Brésil. J'étais traité comme un sauveur. Oui, quelqu'un qui fait un film sur Jean Gilberto. Il n'y a personne qui a fait de film sur Jean Gilberto jusqu'à maintenant. Et il fallait un Français qui est devenu Suisse, qui habite en Suisse, trouve de l'argent en Europe, en Suisse et en Europe pour faire un film sur Jean Gilberto. En fait, peut-être ils étaient un peu vergogna, comme ils disent.
Et qui fait la portugaise du Brésil, também.
Si, c'est quasi carioca.
Alors, un dernier mot, puisque quelqu'un nous a quitté récemment qui a fait de grandes choses pour le Cambodge, Béatrice Schneider. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà la relation que vous aviez avec lui et quels sont vos projets?
Oh, c'était un ami, Béatrice Schneider. Je l'ai rencontré en 96 lorsque on a produit un CD. Il jouait des suites de Bach dans une pagode et après j'ai fait un premier film. Après, il a construit un autre hôpital, deuxième film. Et puis sur 20 ans, mon dernier film, on avait ouvert le festival de Vision du Réel en 2012. Ça s'appelait L'ombrelle de Beato Cello. C'était devenu un ami, quelqu'un de très très intéressant qui a nourri beaucoup la compréhension aussi de l'œuvre humanitaire dans le monde, comment un système peut fonctionner. Et oui, il y avait une cérémonie la semaine passée à la cathédrale de Zurich. J'étais là, j'ai montré des films dont je le suis. J'ai toute l'archive de Béatrice Schneider, tout filmé au Cambodge pendant 20 ans. Je suis quelqu'un que j'abandonne pas. Et le 6 décembre, il va être enterré à Siem Reap dans une stupa en face de son hôpital. Et en présence du roi Siamoni, et j'irai avec ma caméra.
En votre présence.
Oui, tout à fait.
Merci, Georges Garchon.
Merci à vous.